Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price. This is a tax break.
Switch to a TurboTax Live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beat your price. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beat your price.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
29e veillée des maîtres sonneurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les maîtres sonneurs, de George Sand, 29e veillée. J'avais beau répondre et protester en me fâchant, on était plus en train de rire que de m'écouter, et ça a été de tout temps une grande amusette pour les garçons éconduits de médire d'une mauvaise fille. On se dépêche de l'abîmer, sauf à en revenir plus tard, si l'on voit qu'elle ne le méritait point. Mais, au milieu du bruit des mauvaises paroles, on entendit une voix forte que la maladie avait un peu diminuée, mais qui était encore capable de couvrir toutes celles d'un cabaret en rumeur. C'était le maître du logis, habitué de longue date à gouverner les orages du vin et les vacarmes de l'abondance. « Tenez vos langues, dit-il, et m'écoutez, ou, dussé-je fermer la maison pour toujours, je vous ferai sortir à l'instant même. Tâchez de vous taire sur le compte d'une fille de bien, que vous ne décriez que pour l'avoir trouvée trop sage. Et, quant aux véritables parents de l'enfant qui a donné lieu à tant d'histoires, dites-leur donc enfin, bien en face, le blâme que vous leur destinez, car les voilà devant vous. Oui, dit-il en attirant contre lui la Mariton qui pleurait, tenant Charlot dans ses bras, voilà la mère de mon héritier, et voilà mon fils reconnu par mon mariage avec cette brave femme. Si vous m'en demandez la date bien au juste, je vous répondrai que vous ayez à vous mêler de vos affaires. Mais pourtant, à celui qui aurait de bonnes raisons pour me questionner, je pourrais montrer des actes qui prouvent que j'ai toujours reconnu l'enfant pour mien, et qu'avant sa naissance, sa mère était déjà ma légitime épouse, encore que la chose fût tenue cachée. » Il se fit un grand silence d'étonnement, et Joseph, qui s'était levé au premier mot, resta debout comme changé en pierre. Le moine, qui vit du doute, de la honte et de la colère dans ses yeux, jugea à propos de donner quelques explications de plus. Il nous apprit que Benoît avait été empêché de rendre son mariage public par l'opposition d'un parent à succession qui lui avait prêté des fonds pour son commerce et qui aurait pu le ruiner en lui demandant la restitution. Et comme la Mariton craignait d'être attaquée dans sa renommée, surtout à cause de son fils Joseph, elle avait caché la naissance de Charlot et l'avait mise en nourrice à Sainte-Sevère. Mais, au bout d'un an, elle l'avait trouvé si mal éduqué qu'elle avait prié Brulette de s'en charger, comptant que nul autre n'en aurait autant de soin. Elle n'avait point prévu que cela ferait du tort à cette jeunesse, et quand elle l'avait su, elle avait voulu reprendre l'enfant. Mais la maladie de Benoît avait fait empêchement, et Brulette, d'ailleurs, s'y était si bien attachée qu'elle n'avait point voulu s'en séparer. « Oui, oui, dit vivement la Mariton, la pauvre âme qu'elle est, elle m'a montré son courage dans l'amitié. Vous avez assez de peine comme cela, me disait-elle, s'il faut que vous perdiez votre mari et que peut-être votre mariage soit attaqué ensuite par sa famille. Il est trop malade pour que vous puissiez souhaiter qu'il se mette dans les grands embarras qui résulteraient, à présent, de la déclaration de votre mariage. Ayez patience et ne le tuez point par des soucis d'affaires. Tout s'arrangera à vos souhaits, si Dieu vous fait la grâce qu'il en revienne. Et si j'en suis revenu, ajouta Benoît, c'est par les soins de cette digne femme, qui est ma femme, et par la bonté d'âme de la jeune fille en question, qui s'est exposée patiemment au blâme et à l'insulte, plutôt que de me pousser à ma ruine en trahissant nos secrets. Mais voilà encore un fidèle ami, ajouta-t-il en montrant le Carme, un homme de tête, d'action et de franche parole, qui a été mon camarade d'école dans le temps que j'étais élevé à Montluçon. C'est lui qui a été trouvé mon vieux diable d'oncle, et qui, à la fin, pas plus tard que ce matin, l'a fait consentir à mon mariage avec ma bonne ménagère. Et quand il a eu lâché la promesse qu'il me laisserait ses fonds et son héritage, on lui a avoué que le prêtre y avait déjà passé, et on lui a présenté le gros Charlot, qu'il a trouvé beau garçon et bien ressemblant à l'auteur de ses jours. Ce contentement de Benoît fit revenir la gaieté, et chacun fut frappé de cette ressemblance, dont, pourtant, on ne s'était point avisé jusque-là, moi pas plus que les autres. « Par ainsi, Joseph, dit encore l'aubergiste, tu peux et dois aimer et respecter ta mère, comme je l'aime et la respecte. Je fais serment ici que c'est la plus courageuse et la plus secourable chrétienne qu'il y ait auprès d'un malade, et que je n'ai jamais eu une heure d'hésitation dans ma volonté de déclarer tôt ou tard ce que je déclare aujourd'hui. Nous voilà assez bien dans nos affaires, Dieu merci, et comme j'ai juré à elle et à Dieu que je remplacerai le père que tu as perdu, si tu veux demeurer avec nous, je t'associerai à mon commerce et te ferai faire de bons profits. Tu n'as donc pas besoin de te jeter dans le cornemusage, puisque ta mère y voit des inconvénients pour toi et des inquiétudes pour elle. Ton idée était de lui assurer un sort. Ça ne regarde plus que moi, et mêmement je m'offre à assurer le tien. Nous écouteras-tu à la fin, et renonceras-tu à ta damnée musique? Ne veux-tu point demeurer en ton pays, vivre en famille, et rougirais-tu d'avoir un aubergiste honnête homme pour ton beau-père? Vous êtes mon beau-père, cela est certain, répondit Joseph sans marquer ni joie ni tristesse, mais se tenant assez froidement sur la défensive. Vous êtes honnête homme, je le sais, et riche, je le vois. Si ma mère se trouve heureuse avec vous... Oui, oui, Joseph, la plus heureuse du monde, aujourd'hui surtout, s'écria la Mariton en l'embrassant, car j'espère que tu ne me quitteras plus. Vous vous trompez, ma mère, répondit Joseph. Vous n'avez plus besoin de moi, et vous êtes contente. Tout est bien. Vous étiez le seul devoir qui me rappelât au pays. Il ne m'y restait plus que vous à aimer, puisque Brulette, il est bon pour elle que tout le monde l'entende aussi de ma bouche, n'a jamais eu pour moi que les sentiments d'une sœur. À présent, me voilà libre de suivre ma destinée, qui n'est pas bien aimable, mais qui m'est trop bien marquée pour que je ne la préfère point à tout l'argent du commerce et à toutes les aises de la famille. Adieu donc, ma mère. Que Dieu récompense ceux qui vous donneront le bonheur. Moi, je n'ai plus besoin de rien, ni d'état en ce pays, ni de brevet de maîtrise octroyé par des ignorants mal intentionnés pour moi. J'ai mon idée et ma musette qui me suivront partout. Et tout gagne-pain me sera bon, puisque je sais qu'en tout lieu je me ferai connaître sans autre peine que celle de me faire entendre. » Comme il disait cela, la porte de l'escalier s'ouvrit et toute l'assemblée des sonneurs rentra en silence. Le père Carnat réclama l'attention de la compagnie et, d'un air joyeux et décidé qui étonna bien tout le monde, il dit « François Carnat, mon fils, après examen de vos talents et discussion de vos droits, vous avez été déclaré trop novice pour recevoir la maîtrise. » On vous engage donc à étudier encore un bout de temps, sans vous dégoûter, à seule fin de vous représenter plus tard au concours qui vous sera peut-être plus favorable. Et vous, Joseph Picot, du bourg de Nohant, le conseil des maîtres sonneurs du pays vous fait à savoir que, par vos talents sans pareil, vous êtes reçu maître sonneur de première classe, sans exception d'une seule voix. « Allons, » répondit Joseph, qui resta comme indifférent à cette belle victoire et à l'approbation qui y fut donnée par tous les assistants. « Puisque la chose a tourné ainsi, je l'accepte, encore que, n'y comptant point, je n'y tinsse guère. » La hauteur de Joseph ne fut approuvée de personne, et le père Carnat se dépêcha de dire, d'un air où je trouvais beaucoup de malice déguisée, « Il paraîtrait, Joseph, que vous souhaitez vous en tenir à l'honneur et au titre, et que votre intention n'est pas de prendre rang parmi les ménétriers du pays ?» « Je n'en sais rien encore, » répondit Joseph, par bravade assurément, et pour ne pas contenter trop vite ses juges, j'y donnerai réflexion. « Je crois, » dit le jeune Carnat à son père, « que toutes ces réflexions sont faites et qu'il n'aura pas le courage d'aller plus avant. »« Le courage ?» dit vivement Joseph. « Et quel courage faut-il, s'il vous plaît ?» Alors le doyen des sonneurs, qui était le vieux Payou de Verneuil, dit à Joseph, « Vous n'êtes pas sans savoir, jeune homme, qu'il ne s'agit pas seulement de sonner d'un instrument pour être reçu en notre compagnie, mais qu'il y a un catéchisme de musique qu'il faut connaître et sur lequel vous serez questionné, si toutefois vous vous sentez l'instruction et la hardiesse pour y répondre. Il y a encore des engagements à prendre. Si vous n'y répugnez point, il faut vous décider avant une heure et que la chose soit terminée demain matin. « Je vous entends, » dit Joseph. « Il y a les secrets du métier, les conditions et les épreuves. » Ce sont de grandes sottises, autant que je peux croire, et la musique n'y entre pour rien, car je vous défierais bien de répondre, sur ce point, à aucune question que je pourrais vous faire. Par ainsi, celles que vous me prétendez adresser ne rouleront pas sur un sujet auquel vous êtes aussi étranger que les grenouilles d'un étang, et ne seront que sornettes de vieilles femmes. Si vous le prenez ainsi, dit René, le sonneur de mer, nous voulons bien vous laisser croire que vous êtes un grand savant et que nous sommes des ânes. Soit, gardez vos secrets, nous garderons les nôtres. Nous ne sommes point pressés de les dire à qui en fait mépris. Mais alors, souvenez-vous d'une chose. Voilà votre brevet de maître sonneur, qui vous est délivré par nous, et où rien ne manque, de l'avis de ces sonneurs bourbonnais, vos amis, qui l'ont rédigé et signé avec nous tous. Vous êtes libre d'aller exercer vos talents, où ils feront besoin et où vous pourrez. Mais il vous est défendu d'y essayer dans l'étendue des paroisses que nous exploitons, et qui sont au nombre de 150, selon la distribution qui en a été faite entre nous, et dont la liste vous sera donnée. Et si vous y contrevenez, nous sommes obligés de vous avertir que vous n'y serez souffert de gré ni de force, et que la chose sera toute à vos risques et périls. » Ici la Mariton prit la parole. « Vous n'avez pas besoin de lui faire des menaces, » dit-elle, « et pouvez le laisser à son humeur, qui est de cornemuser sans y chercher de profit. Il n'a pas besoin de ça, Dieu merci, et n'a pas, d'ailleurs, la poitrine assez forte pour faire état de ménétrier. Allons, Joseph, remercie-les de l'honneur qu'ils te donnent et ne les chagrine point dans leurs intérêts. Que ce soit une convention vitement réglée, et voilà mon homme qui en fera les frais, avec un bon carteau de 20 dix soudains ou de Sancerre, au choix de la compagnie. » « À la bonne heure, » répondit le vieux Carnat. « Nous voulons bien que la chose en reste là. Ce sera le mieux pour votre garçon, car il ne faut être ni sot ni poltron pour se frotter aux épreuves, et m'est avis que le pauvre enfant n'est point taillé pour y passer. »« C'est ce que nous verrons, » dit Joseph, se laissant prendre au piège, malgré les avertissements que lui donnait tout bas le grand bûcheux. « Je réclame les épreuves, et comme vous n'avez pas le droit de me les refuser, après m'avoir délivré le brevet, je prétends être ménétrier si bon me semble, ou, tout au moins, vous prouvez que je n'en serai empêché par aucun de vous. » Accordé, dit le doyen, laissant voir, ainsi que Carnat et plusieurs autres, la méchante joie qu'ils y prenaient. Nous allons nous préparer à la fête de votre réception, l'ami Joseph. Mais songez qu'il n'y a point à en revenir, à présent, et que vous serez tenu pour une poule mouillée et pour un vantard si vous changez d'avis. Marchez, marchez, dit Joseph, je vous attends de pied ferme. « C'est nous, lui dit Carnat près de l'oreille, qui vous attendrons au coup de minuit. »« Où ? » dit encore Joseph avec beaucoup d'assurance. « À la porte du cimetière, » répondit tout bas le doyen. Et, sans vouloir accepter le vin de Benoît ni entendre les raisons de sa femme, ils s'en allèrent tous ensemble, promettant malheur à qui les suivrait ou les espionnerait dans leur mystère. Le grand bûcheux et Huriel les suivirent sans dire un mot de plus à Joseph, d'où je vis que, s'ils étaient contraires au mal qui lui était souhaité par les autres sonneurs, ils n'en regardaient pas moins comme un devoir sérieux de ne lui donner aucun avertissement et de ne trahir en rien le secret de la corporation. Malgré les menaces qui avaient été faites, je ne me gênais point pour les suivre, à distance, sans autre précaution que celle de m'en aller par le même chemin, les mains dans les poches et sifflant, comme qui n'aurait eu aucun souci de leurs affaires. Je savais bien qu'ils ne me laisseraient point assez approcher pour entendre leurs manigances. Mais je voulais voir de quel côté ils prétendaient s'embusquer, afin de chercher le moyen d'en approcher plus tard sans être observé. Dans cette idée, j'avais fait signe à Léonard de garder les autres au cabaret, jusqu'à ce que je revinsse les avertir. Mais ma poursuite ne fut pas longue. L'auberge était dans la rue qui descend à la rivière et qui est aujourd'hui route postale sur Issoudun. Dans ce temps-là, c'était un petit casse-cou étroit et mal pavé, bordé de vieilles maisons à pignons pointus et à croisillons de pierre. La dernière de ces maisons a été démolie l'an passé. De la rivière, qui arrosait le mur en contrebas de l'auberge du Bœuf couronné, on montait, raide comme pique, à la place, qui était, comme aujourd'hui, cette longue chaussée raboteuse plantée d'arbres, bordée à gauche par des maisons fort anciennes, à droite par le grand fossé, alors rempli d'eau, et la grande muraille alors bien entière du château. Au bout, l'église finit la place, et deux ruelles descendent l'une à la cure, l'autre le long du cimetière. C'est par celle-là que tournèrent les cornemuseux. Ils avaient environ une bonne portée de fusil en avance sur moi, c'est-à-dire le temps de suivre la ruelle qui longe le cimetière et de déboucher dans la campagne, par la poterne de la tour des Anglais, à moins qu'ils ne fissent choix de s'arrêter en ce lieu ce qui n'était guère commode, car le sentier, serré à droite par le fossé du château et de l'autre côté par le talus du cimetière, ne pouvait laisser passer qu'une personne à la fois. Quand je jugeai qu'il devait avoir gagné la poterne, je tournai l'angle du château par une arcade qui, dans ce temps-là, donnait passage aux piétons sous une galerie servant au seigneur pour se rendre à l'église paroissiale. Je me trouvai seul dans cette ruelle où, passé soleil couché, aucun chrétien ne se risquait jamais, tant pour ce qu'elle côtoyait le cimetière que parce que le flanc nord du château était mal renommé. On parlait de je ne sais combien de personnes noyées dans le fossé du temps de la guerre des Anglais, et mêmement on jurait d'y avoir entendu siffler la cocadrille dans les temps d'épidémie. Vous savez que la cocadrille est une manière de lézard qui paraît tantôt réduit pas plus gros que le petit doigt, tantôt gonflé, par le corps, à la taille d'un bœuf et long de 5 à 6 aunes. Cette bête, que je n'ai jamais vue, et dont je ne vous garantis point l'existence, est réputée vomir un venin qui empoisonne l'air et amène la peste. Encore que je n'y crusse pas beaucoup, je ne m'amusais point dans ce passage où le grand mur du château et les gros arbres du cimetière ne laissaient guère percer la clarté du ciel. Je marchai vite, sans trop regarder à droite ni à gauche, et sortis par la poterne des Anglais, dont il ne reste pas aujourd'hui pierre sur pierre. Mais là, malgré que la nuit fut belle et la lune levée, je ne vis, ni auprès ni au loin, trace des 18 personnes que je suivais. Je questionnai tous les alentours, j'avisai jusque dans la maison du père Baigneux, qui était la seule habitation où ils auraient pu entrer. On y dormait bien tranquillement, et, soit dans les sentiers, soit dans le découvert, il n'y avait ni bruit, ni trace, ni aucune apparence de personne vivante. J'augurai donc que la sonnerie mécréante était entrée dans le cimetière pour y faire quelque mauvaise conjuration, et, sans en avoir nulle envie, mais résolu à tout risquer pour les parents de Thérence, je repassai la poterne et rentrai dans la maudite rouelle aux Anglais, marchant doux, me serrant au talus dont je rasais quasiment les tombes et ouvrant mes oreilles au moindre bruit que je pourrais surprendre. J'entendis bien la chouette pleurer dans les donjons et les couleuvres siffler dans l'eau noire du fossé, mais ce fut tout. Les morts dormaient dans la terre aussi tranquilles que des vivants dans leur lit. Je pris courage pour grimper le talus et donner un coup d'œil dans le champ du repos. J'y vis tout en ordre, et de mes sonneurs, pas plus de nouvelles que s'ils n'y fussent jamais passés. Je fis le tour du château. Il était bien fermé, et comme il était environ les 10 heures, maîtres et serviteurs y dormaient comme des pierres. Alors je retournai au bœuf couronné, ne pouvant m'imaginer ce qu'étaient devenus les sonneurs, mais voulant faire cacher mes camarades dans la ruelle aux Anglais, puisque, de là, nous verrions bien ce qui arriverait à Joseph, à l'heure du rendez-vous donné à la porte du cimetière. Je les trouvai sur le pont, délibérant de s'en retourner chez eux, et disant qu'ils ne voyaient plus aucun danger pour les Huriel, puisqu'ils s'étaient si bien entendus avec les autres dans le conseil de maîtrise. Pour ce qui regardait Joseph tout seul, ils ne s'en souciaient point et voulurent me détourner d'y prendre part. Je leur remontrai qu'à mon sens, c'était dans les épreuves qui allaient se faire que le danger commençait pour tous les trois, puisque la mauvaise intention des sonneurs avait été bien visible et que les Huriel allaient y secourir Joseph, selon leur prévision de la matinée. « Êtes-vous donc déjà dégoûté de l'entreprise ?» leur dis-je. « Est-ce parce que nous ne sommes que 8 contre 16 ? Et ne vous sentez-vous point chacun du cœur pour deux ?»« Comment comptez-vous ? » me dit Léonard. « Croyez-vous que le grand bûcheux et son fils se mettent avec nous contre leurs confrères ?»« Je comptais mal, lui répondis-je, car nous sommes 9. Joseph ne se laissera point manger la laine sur le dos si on lui chauffe trop les oreilles. Et puisque les 2 Huriel ont pris des armes, il me paraît bien certain que c'est pour le défendre, s'ils ne peuvent se faire écouter. » « Il ne s'agit pas de ça, » reprit Léonard. « Nous ne serions que nous 6, et il serait 20 contre nous, que nous irions encore sans les compter. Mais il y a autre chose qui nous plaît moins que la bataille. On vient d'en causer au cabaret. Chacun a raconté son histoire. Le moine a blâmé ces pratiques-là comme impies et abominables. La Mariton a pris une peur qui a gagné tous les assistants, et, encore que Joseph ait ri de tout cela, nous ne pouvons pas être certains qu'il n'y ait quelque chose de vrai au fond. On a parlé d'aspirants cloués dans une bière, de brasiers où on les faisait choir, et de croix de fer rouge qu'on leur faisait embrasser. Ces choses-là me paraissent trop fortes à croire. Mais si j'étais sûr que ce fût tout, je saurais bien donner une bonne correction aux gens assez mauvais pour y contraindre un pauvre prochain. malheureusement... « Allons, allons, lui dis-je, je vois que vous vous êtes laissé épeurer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Dites-le tout, afin qu'on s'en moque ou qu'on s'en gare. »« Il y a, dit un des garçons, voyant que Léonard avait honte de tout confesser, que nous n'avons jamais vu la personne du diable et qu'aucun de nous ne souhaite faire sa connaissance. « Oh oh !» leur dis-je, voyant que tous étaient soulagés par cet aveu et allaient dire comme lui, « C'est donc du propre Lucifer qu'il retourne ?»« Eh bien, à la bonne heure, je suis trop bon chrétien pour le redouter. Je donne mon âme à Dieu et je vous réponds de prendre au crin, à moi tout seul, l'ennemi du genre humain, aussi résolument que je prendrais un bouc à la barbe. » Il y a assez longtemps qu'il porte dommage à ceux qui le craignent. M'est avis qu'un bon gars qui l'écornerait lui ôterait la moitié de sa malice, et ça serait toujours autant de gagner. « Ma foi, dit Léonard, honteux de sa crainte, si tu le prends comme ça, je n'y reculerai pas. Et si tu lui casses les cornes, je veux, à tout le moins, tenter de lui arracher la queue. On dit qu'elle est bonne, et nous verrons bien si elle est d'or ou de chanvre. Il n'y a si bon remède contre la peur que la plaisanterie, et je ne vous cache pas qu'en mettant la chose sur ce ton-là, je n'étais point du tout curieux de me mesurer avec Georgeon, comme chez nous on l'appelle. Je ne me sentais peut-être pas plus rassuré que les autres, mais, pour Thérence, je me serais jeté en la propre gueule du diable. Je l'avais promis. Le bon Dieu lui-même ne m'eût point détourné de mon dessein. Mais c'est mal parlé. Le bon Dieu, tout au contraire, me donnait force et confiance, et, tant plus je me sentis angoissé dans cette nuit-là, tant plus je pensais à lui et requis son aide. Quand les autres camarades nous virent décidés, Léonard et moi, ils nous suivirent. Pour rendre la chose plus sûre, je retournai au cabaret, content d'y trouver d'autres amis qui, sans savoir de quoi il s'agissait, nous suivraient comme en partie de plaisir et nous soutiendraient à l'occasion. Mais l'heure était avancée, et il n'y avait plus au bœuf couronné que Benoît, qui soupait avec le Carme, la Mariton qui faisait des prières, et Joseph qui s'était jeté sur un lit et dormait, je dois le dire, avec une tranquillité qui nous fit honte de nos hésitations. « Je n'ai qu'une espérance, nous dit la Mariton en se relevant dans sa prière, c'est qu'il laissera passer l'heure et ne se réveillera que demain matin. « Voilà les femmes, répondit Benoît en riant. Elles croient qu'il fait bon vivre au prix de la honte. Mais moi, j'ai donné à son garçon parole de le réveiller avant minuit et je n'y manquerai point. « Ah! Vous ne l'aimez pas ! » s'écria la mère. « Nous verrons si vous pousserez notre Charlot dans le danger, quand son tour viendra. »« Vous ne savez ce que vous dites, ma femme, » répondit l'aubergiste. « Allez dormir avec mon garçon. Moi, je vous réponds de ne pas trop laisser dormir le vôtre. Je ne veux point qu'il me reproche de l'avoir déshonoré. » « Et d'ailleurs, » dit le Carme, « quel danger voulez-vous donc voir dans les sottises qu'ils vont faire ? Je vous dis que vous rêvez, ma bonne femme. Le diable ne mange personne. » Dieu ne le souffrirait point, et vous n'avez pas si mal élevé votre fils que vous craignez qu'il se veuille d'amener pour la musique. Je vous répète que les vilaines pratiques des sonneurs ne sont, après tout, que de l'eau claire, des badinages impies, dont les gens d'esprit savent fort bien se défendre, et il suffira à Joseph de se moquer des démons dont on lui va parler pour les mettre tous en fuite. Il ne faut pas d'autre exorcisme, et je vous réponds que je ne voudrais pas perdre une goutte d'eau bénite avec le diable qu'on lui montrera cette nuit. » Les paroles du Carme mirent le cœur au ventre de mes camarades. « Si c'est une farce, me dirent-ils, nous tomberons dessus et battrons en grange sur le mauvais esprit. Mais ne ferons-nous point part à Benoît de notre dessein ? Il nous aiderait peut-être. » « À vous dire vrai, répondis-je, je n'en sais rien. Il passe pour un très brave homme. » Mais on ne tient jamais le fin mot des ménages, surtout quand il y a des enfants d'un premier lit. Les beaux-pères ne les voient pas toujours d'un bon œil, et Joseph n'a pas été bien aimable ce soir, avec le sien. Partons sans rien dire, ce sera le mieux, et l'heure n'est pas loin où il faut que nous soyons prêts. Prenant alors le chemin de l'église, sans bruit et passant un à un, nous allâmes nous poster dans la rouelle aux Anglais. La lune était si basse que nous pouvions, en nous couchant le long du talus, n'être pas vu, quand même on eût passé tout près de nous. Mes camarades, étant étrangers au pays, n'avaient point pour cet endroit les répugnances que j'avais senties d'abord, et je pus les y laisser pour m'avancer et me cacher dans le cimetière, assez près de la porte pour voir ce qui entrerait, et assez près d'eux aussi pour les prévenir au besoin. Fin de la 29e veillée. 30e veillée des maîtres sonneurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les maîtres sonneurs de George Sand. 30e veillée. J'attendis assez longtemps, d'autant plus que les heures ne paraissent jamais courtes dans la triste compagnie des trépassés. Enfin, minuit sonna à l'église, et je vis la tête d'un homme dépasser en dehors le petit mur du cimetière, tout auprès de la porte. Un bon quart d'heure se traîna encore sans que je visse ou entendisse autre chose que cet homme, ennuyé d'attendre, qui se mit à siffler un air bourbonnais, à quoi je reconnus que c'était Joseph, qui trompait sans doute l'espérance de ses ennemis en ne ressentant aucune frayeur du voisinage des morts. Enfin, un autre homme qui était collé contre la porte, en dedans, et que je n'avais pu voir à cause d'un gros buis qui me le masquait, passa vivement sa tête par-dessus le petit mur, comme pour surprendre Joseph, qui ne bougea point et qui lui dit en riant « Eh bien, père Carnat, vous êtes en retard, et, pour un peu, je me serais endormi à vous attendre. M'ouvrirez-vous la porte, ou dois-je entrer dans le jardin aux orties, par la brèche ?»« Non, dit le vieux Carnat, cela fâcherait le curé, et il ne faut point braver ouvertement les gens d'église. Je vais à toi. » Il enjamba par-dessus le mur, et dit à Joseph qu'il se fallait laisser couvrir la tête et les bras d'un sac très épais, et marcher sans résistance. « Faites !» dit Joseph, d'un ton de moquerie et quasi de mépris. Je les suivis de l'œil par-dessus le muret, et les vis rentrer dans la rouette aux Anglais. Je coupai droit jusqu'au talus où étaient cachés mes jeunes gens, mais je n'en trouvai plus que quatre. Le plus jeune avait déguerpi tout doucement sans rien dire, et je n'étais pas sans crainte que les autres n'en fissent autant, car ils avaient trouvé le temps long, et ils me dirent avoir entendu, en ce lieu, des bruits singuliers qui leur semblaient venir de dessous terre. Nous vîmes bientôt arriver Joseph, marchant sans y voir et conduit par Carnat. Ils venaient sur nous, mais quittèrent le sentier à une vingtaine de pas. Carnat fit descendre Joseph jusqu'au bord du fossé, et nous pensâmes qu'il l'y voulait faire noyer. Aussi étions-nous déjà sur nos jambes et prêts à empêcher cette traîtrise, lorsque nous vîmes que tous deux entraient dans l'eau, qui n'était point creuse en cet endroit, et gagnaient une arcade basse, au pied de la grande muraille du château, qui baignait dans le fossé. Ils y entrèrent, et ceci m'expliqua par où les autres avaient disparu quand je les avais si bien cherchés. Il s'agissait de faire comme eux, et ça ne me paraissait guère malaisé, mais j'eus bien de la peine à y décider mes compagnons. Ils avaient ouï dire que les souterrains du château s'étendaient sous la campagne jusqu'à Déols, qui est à environ 9 lieues, et qu'une personne qui n'en connaîtrait pas les détours ne s'y pourrait jamais retrouver. Je fus obligé de leur dire que je les connaissais très bien, encore que je n'y eusse jamais mis le pied, et que je n'eusse aucune idée si c'était des celliers pour le vin ou une ville sous terre, comme aucun le prétendait. Je marchai le premier, sans voir seulement où je posais mes pieds, tâtant les murs qui faisaient un passage très étroit et où il ne fallait guère lever la tête pour rencontrer la voûte. Nous avancions comme cela depuis un bon moment, quand il se fit, au-dessous de nous, un vacarme comme si c'était 40 tonnerres roulant dans les cavernes du diable. Cela était si singulier et si épouvantable que je m'arrêtai pour tâcher d'y comprendre quelque chose, et puis j'avançai vitement, ne voulant pas me laisser refroidir par l'imagination de quelque diablerie, et disant à mes camarades de me suivre. Mais le bruit était trop fort pour qu'ils m'entendissent parler, et moi, pensant qu'ils étaient sur mes talons, j'avançai encore plus, jusqu'à ce que, n'entendant plus rien, et me retournant pour leur demander s'ils étaient là, je n'en reçus aucune réponse. Comme je ne voulais point parler haut, je fis 4 ou 5 pas en retour de ceux que j'avais faits en avant. J'allongeai les mains, j'appelai avec précaution. Adieu la compagnie, ils m'avaient laissé tout seul. Je pensais que, n'étant pas bien loin de l'entrée, je les rattraperais dedans ou dehors. Je marchai donc plus vite et avec plus d'assurance, et repassai l'arcade par où j'étais entré, pour regarder et chercher tout le long de la rouette aux Anglais. Mais il était arrivé de mes camarades comme des sonneurs, il semblait que la terre les eût dévorés. J'eus comme un moment de mal fièvre en songeant qu'il me fallait tout abandonner, ou rentrer dans ces maudites cavernes et m'y trouver tout seul aux prises avec les embûches et les frayeurs qui y attendaient Joseph. Mais je me demandais si, dans le cas où il ne s'agirait que de lui, je me retirerais tranquillement de son danger. Mon âme de chrétien m'ayant répondu que non, je demandai à mon cœur si l'amour de Thérence n'était pas aussi solide en lui que l'amour du prochain dans ma conscience, et la réponse que j'en reçus me fit repasser l'arcade noire et vaseuse bien résolument et courir dans le souterrain, non pas aussi gai, mais aussi prompt que si c'eût été à ma propre noce. Comme je tâtais toujours en marchant, je trouvai, sur ma droite, l'entrance d'une autre galerie que je n'avais point sentie la première fois en tâtant sur ma gauche, et je me dis que mes camarades, en se retirant, avaient dû la rencontrer et s'y engager, croyant aller à la sortie. Je m'y engageai pareillement, car rien ne me disait que mon premier chemin fût celui qui me rapprochait des sonneurs. Je n'y retrouvai point mes camarades, mais quant aux sonneurs, je n'eus pas fait 25 pas que j'entendis leur vacarme de beaucoup plus près que je n'avais fait la première fois, et bientôt une clarté trouble me fit voir que je débouchais dans un grand caveau rond qui avait 3 ou 4 sorties noires comme la gueule de l'enfer. Je m'étonnais de voir clair, ou peu s'en faut, dans un endroit voûté où ne se trouvait aucun luminaire, et, me baissant, je reconnus que cette lueur venait du dessous et perçait le sol où je marchais. J'observai aussi que ce sol se renflait en voûte sous mes pieds, et, craignant qu'il ne fût point solide, je ne m'aventurai point au mitant, mais, suivant le mur, je m'avisai de plusieurs crevasses où, en me couchant par terre, je collai ma vue bien commodément et vis tout ce qui se passait dans un autre caveau rond, placé juste au-dessous de celui où j'étais. C'était, comme j'ai su après, un ancien cachot, attenant à celui de la grande oubliette dont la bouche se voyait encore, il n'y a pas 30 ans, dans les salles hautes du château. Je m'en doutais bien, à voir les débris d'ossements qu'on y avait dressés en manière d'épouvantail, avec des cierges de résine plantés dans des crânes au fond de l'enceinte. Joseph était là tout seul, les yeux débandés, les bras croisés, aussi tranquille que je l'étais peu, et paraissant écouter avec mépris le tintamarre des 18 musettes qui braillaient toutes ensemble, prolongeant la même note en manière de rugissement. Cette musique d'enragés venait de quelques caves voisines où les sonneurs se tenaient cachés, et où, sans doute, ils savaient qu'un écho singulier trentuplait la résonance. Moi, qui n'en savais rien et qui ne m'en avisais que par réflexion, je pensais d'abord qu'il y avait là tous les cornemuses du Berry, de l'Auvergne et du Bourbonnais rassemblés. Quand ils se furent saoulés de faire ronfler leurs instruments, ils se mirent à pousser des cris et des miaulements qui, répétés par ces échos, paraissaient être ceux d'une grande foule mêlée d'animaux furieux de toute espèce. Mais à tout cela, Joseph, qui était véritablement un homme comme j'en ai peu vu dans les paysans de chez nous, se contentait de lever les épaules et de bâiller, comme ennuyé d'un jeu d'imbécile. Son courage passait en moi, et je commençais à vouloir rire de la comédie quand un petit bruit me fit tourner la tête, et je vis, juste derrière moi, à l'entrée de la galerie par où j'étais venu, une figure qui me glaça les sens. C'était comme un seigneur des temps passés, portant une cuirasse de fer, une pique bien affilée et des habits de cuir d'une mode qu'on ne voit plus. Mais le plus affreux de sa personne était sa figure, qui offrait la véritable ressemblance d'une tête de mort. Je me remis un peu, me disant que c'était un déguisement pris par un de la bande pour éprouver Joseph. Mais, en y pensant mieux, je vis que le danger était pour moi, puisque dans ce cas, me trouvant aux écoutes, il allait me faire un mauvais parti. Mais, encore qu'il pût me voir comme je le voyais, il ne bougea point et resta planté à la manière d'un fantôme, moitié dans l'ombre, moitié dans la clarté qui venait d'en bas. Et comme cette clarté allait et venait selon qu'on l'agitait, il y avait des moments où, ne le distinguant plus, je croyais l'avoir eu seulement dans ma tête. Mais tout d'un coup, il reparaissait clairement, sauf ses jambes qui restaient toujours dans l'obscur, derrière une espèce de marche, de telle sorte que je m'imaginais le voir flotter comme une figure de nuage. Je ne sais combien de minutes je passais à me tourmenter de cette vision, ne pensant plus du tout à épier Joseph, et craignant de devenir fou pour avoir tenté plus qu'il n'était en moi d'affronter. Je me souvenais d'avoir vu, dans les salles du château, une vieille peinture qu'on disait être le portrait d'un ancien guerrier bien mal commode, que le seigneur du lieu, lequel était son propre frère, avait fait jeter en l'oubliette. Le revêtissement de fer et de cuir que j'avais là devant moi, sur une figure de mort desséchée, était si ressemblant à celui de l'image peinte que l'idée me venait bien naturellement d'une âme en colère et en peine qui venait épier la profanation de son sépulcre et qui, peut-être bien, en marquerait son déplaisir d'une manière ou de l'autre. Ce qui me rendit mon calcul assez raisonnable, c'est que cette âme ne me disait rien et ne s'occupait point de moi, connaissant peut-être que je n'étais point là à mauvaises intentions contre sa pauvre carcasse. Un bruit différent des autres arracha pourtant mes yeux du charme qui les retenait. Je regardai dans le caveau où était Joseph, et j'y vis une autre chose bien laide et bien étrange. Joseph était toujours debout et assuré, en face d'un être abominable, tout habillé de peau de chien, portant des cornes dans une tête chevelue, avec une figure rouge, des griffes, une queue, et faisant toutes les sauteries et grimaces d'un possédé. C'était fort vilain à voir, et cependant je n'en fus pas longtemps la dupe, car il avait beau changer sa voix, il me semblait reconnaître celle de Doré Fratin, le cornemuseux de Pouligny, un des hommes les plus forts et les plus batailleurs de nos alentours.
« Tu as beau répondre, disait-il à Joseph, que tu te ris de moi et que tu n'as aucune peur de l'enfer. Je suis le roi des musiqueux, et, sans ma permission, tu n'exerceras point que tu ne m'aies vendu ton âme. »
Joseph lui répondit, « Qu'est-ce qu'un diable aussi sot que vous ferait de l'âme d'un musicien ? Il ne s'en pourrait point servir. »
« Fais attention à tes paroles, » dit l'autre. « Ne sais-tu point qu'il faut ici se donner au diable, ou être plus fort que lui ?»«
Oui, oui, » répliqua Joseph. « Je sais la sentence. Il faut tuer le diable, ou que le diable vous tue. » Sur ce mot-là, je vis Huriel et son père sortir d'une voûte de côté et s'approcher du diable comme pour lui parler. Mais ils furent retenus par les autres sonneurs qui se montrèrent autour de lui, et Carnat, le père, s'adressant à Joseph,
« On voit, lui dit-il, que tu ne redoutes pas les sortilèges, et on t'en tiendra quitte, si tu te veux conformer à l'usage, qui est de battre le diable, en marque de refus que tu fais chrétiennement de te soumettre à lui.
« Si le diable veut être bien étrillé, répliqua Joseph, donnez-moi la permission vitement, et il verra si sa peau est plus dure que la mienne. Quelles sont les armes ?»«
Aucune autre que les poings, répondit Carnat.
« C'est en franc jeu, j'espère, dit le grand bûcheux.
Joseph ne prit pas le temps de s'en assurer, et, en colère du jeu qu'on faisait de lui, il sauta sur le diable, lui arracha sa coiffure et le prit au corps si résolument qu'il le jeta par terre et tomba dessus. Mais il se releva aussitôt, et il me sembla qu'il poussait un cri de surprise et de souffrance. Mais toutes les musettes se mirent à jouer, sauf celles d'Huriel et de son père, lesquelles faisaient semblant, et regardaient le combat d'un air de doute et d'inquiétude. Cependant, Joseph roulait le diable et paraissait le plus fort. Mais je trouvais en lui une rage qui ne me paraissait point naturelle et qui me faisait craindre que, par trop de violence, il ne se mît dans son tort. Les sonneurs semblaient l'y aider, car, au lieu de secourir leurs camarades, trois fois renversés, ils tournaient autour de la lutte, sonnant toujours et frappant des pieds pour l'exciter à tenir bon. Tout d'un coup, le grand bûcheux sépara les combattants en allongeant un coup de bâton sur les pattes du diable et menaçant de faire mieux la seconde fois si on ne l'écoutait parler. Huriel accourut à son côté, le bâton levé aussi, et tous les autres s'arrêtant de tourner et de sonner, il se fit un repos et un silence. Je vis alors que Joseph, vaincu par la douleur, essuyait ses mains déchirées et sa figure couverte de sang, et que si Huriel ne l'eût retenu dans ses bras, il serait tombé sans connaissance, tandis que Doré Fratin jetait son attirail, soufflait de chaud, et n'essuyait en ricanant que la sueur d'un peu de fatigue.
« Qu'est-ce à dire ? » s'écria Carnat, venant d'un air de menace contre le grand bûcheux. « Êtes-vous un faux frère ? De quel droit mettez-vous empêchement aux épreuves ? » ?»«
J'y mets empêchement à mes risques et à votre honte, » répliqua le grand bûcheux. « Je ne suis pas un faux frère, et vous êtes de méchants traîtres, aussi traîtres que dénaturés. Je m'en doutais bien que vous nous trompiez, pour faire souffrir et peut-être blesser dangereusement ce jeune homme. Vous le haïssez, parce que vous sentez qu'il vous serait préféré, et que là où il se ferait entendre, on ne voudrait plus vous écouter. Vous n'avez pas osé lui refuser la maîtrise, parce que tout le monde vous l'eût reproché comme une injustice trop criante. Mais, pour le dégoûter de pratiquer dans les paroisses dont vous avez fait usurpation, vous lui rendez les épreuves si dures et si dangereuses qu'aucun de vous ne les aurait supportés si longtemps.
« Je ne sais pas ce que vous voulez dire, » répondit le vieux doyen, Bayou de Verneuil, « et les reproches que vous nous faites ici en présence d'un aspirant sont d'une insolence sans pareille. Nous ne savons pas comment on pratique la réception dans vos pays, mais ici, nous sommes dans nos coutumes et ne souffrirons pas qu'on les blâme. »«
Je les blâmerai, moi, » dit Huriel,
qui étanchait toujours le sang de Joseph avec son mouchoir, et, l'ayant assis sur son genou, l'aidait à revenir. « Ne pouvant et ne voulant vous faire connaître hors d'ici, à cause du serment qui me fait votre confrère, je vous dirai, au moins en face, que vous êtes des bourreaux. Dans nos pays, on se bat avec le diable par pur amusement et en ayant soin de ne se faire aucun mal. Ici, vous choisissez le plus fort d'entre vous et vous lui laissez des armes cachées dont il cherche à crever les yeux et percer les veines. Voyez, ce jeune homme est abîmé et, dans la colère où l'avait mis votre méchanceté, il s'y serait fait tuer si nous ne l'eussions arrêté. Qu'en auriez-vous fait alors? Vous l'eussiez donc jeté en cette caverne d'oubli, où ont péri tant d'autres pauvres malheureux dont les ossements devraient se redresser pour vous reprocher d'être aussi méchant que vos anciens seigneurs ?» Cette parole d'Huriel me rappela l'apparition que j'avais oubliée, et je me retournai pour voir si son invocation l'attirerait à lui. Je ne la vis plus, et pensai à trouver le chemin du caveau d'en bas, où, d'un moment à l'autre, je sentais bien devoir être utile à mes amis. Je trouvai tout de suite l'escalier et le descendis, jusqu'à l'entrée, où je ne songeais même pas à me tenir caché, tant il y avait là de disputes et de confusions, qui ne permettaient pas de faire attention à moi. Le grand bûcheux avait ramassé la casaque de peau de bête, et montrait comme quoi elle était garnie de pointes, comme une carde à étriller les bœufs, et les mitaines que ce faux diable portait encore avaient, à la paume des mains, de bons clous bien assujettis, la pointe en dehors. Les autres étaient furieux de se voir blâmer devant Joseph. « Voilà bien du bruit pour des égratignures, » disait Carnat. « N'est-il point dans l'ordre que le diable ait des ongles? Et cet innocent, qui l'a attaqué sans prudence, ne savait-il point qu'on ne joue pas avec lui sans s'y faire échafrer un peu le museau? Allons, allons, ne le plaignez point tant, ce n'est rien. Et puisqu'il en a assez, qu'il se retire et confesse qu'il n'est point de force à se divertir avec nous, partant qu'il ne saurait être de notre compagnie en aucune manière. » « J'en serai !» dit Joseph, qui, en s'arrachant des bras d'Huriel, montra qu'il avait la poitrine ensanglantée et sa chemise déchirée. « J'en serai malgré vous. J'entends que la bataille recommence, et il faudra que l'un de nous reste ici. »« Et moi, je m'y oppose, » dit le grand bûcheux, « et j'ordonne que ce jeune homme soit déclaré vainqueur, ou bien je jure d'amener dans ce pays une bande de sonneurs qui feront connaître la manière de se comporter et y rétabliront la justice. » Vous, dit Fratin, en tirant une manière des pieux de la ceinture. « Vous pourrez le faire, mais non pas sans porter de nos marques, à seule fin qu'on puisse donner foi à vos rapports. » Le grand bûcheux et Huriel se mirent en défense. Joseph se jeta sur Fratin pour lui arracher son épieu, et je ne fis qu'un saut pour les joindre. Mais, devant qu'on eût pu échanger des coups, la figure qui m'avait tant troublé se montra sur le seuil de l'oubliette, étendit sa pique, et s'avança d'un pas qui suffit pour donner la frayeur aux mal intentionnés. Et, comme on s'arrêtait, morfondu de crainte et d'étonnement, on entendit une voix plaintive qui récitait la prose des morts dans le fond de l'oubliette. C'en fut assez pour démonter la confrérie, et l'un des sonneurs s'étant écrié « Les morts! Les morts qui se lèvent !» Tous prirent la fuite, pêle-mêle, criant et se poussant, par toutes les issues, sauf celle de l'oubliette, où apparaissait une autre figure couverte d'un suaire, toujours psalmodiant de la manière la plus lamentable qui se puisse imaginer. Si bien qu'en une minute, nous nous trouvâmes sans ennemis, le guerrier ayant jeté son casque et son masque, et nous montrant la figure réjouie de Benoît, tandis que le carme, déroulant son suaire, se tenait les côtes à force de rire. « Que le bon Dieu me pardonne la mascarade, » disait-il, « mais je l'ai faite à bonne intention. » Et il me semble que ces coquins méritaient qu'on leur donnât une bonne leçon pour leur apprendre à se moquer du diable, dont ils ont plus de peur que ceux à qui ils le font voir. « J'en étais bien sûr, moi, » disait Benoît, « qu'en voyant notre comédie, ils trembleraient au beau milieu de la leur. » Mais alors, avisant le sang et les blessures de Joseph, il s'inquiéta de lui et lui montra tant d'intérêt que cela, joint au secours qu'il lui apportait, me prouva son amitié pour lui et son bon cœur, dont j'avais douté. Tandis que nous nous assurions que Joseph n'avait pas de mal trop profond, le carme nous racontait comme quoi le sommelier du château lui avait dit avoir coutume de permettre aux sonneurs et autres joyeuses confréries de faire leur cérémonie dans les souterrains. Ceux où nous étions se trouvaient assez distants des bâtiments habités par la demoiselle dame de Saint-Chartier pour qu'elle n'entendît pas le bruit, et, dans tous les cas, elle n'eût fait qu'en rire, car on n'imaginait point qu'il s'y pût mêler de la méchanceté. Mais Benoît, qui se doutait de quelque mauvais dessein, avait demandé au même sommelier un déguisement et les clés des souterrains, et c'est ainsi qu'il se trouvait là si à point pour écarter le danger. « Eh bien, lui dit le grand bûcheux, merci pour votre assistance, mais je regrette que l'idée vous en soit venue, car ces gens sont capables de m'accuser de l'avoir réclamée, et, par là, d'avoir trahi les secrets de mon métier. Si vous m'en croyez, nous partirons sans bruit, et leur laisserons croire qu'ils ont vu des fantômes. » D'autant plus, dit Benoît, que leur rancune pourrait me retirer leur consommation, qui n'est pas peu de chose. Pourvu qu'ils n'aient point reconnu Tiennet. Et comment diable, à propos, Tiennet se trouve-t-il là? Ne l'avez-vous pas amené? Dit Huriel. Vraiment non, répondis-je. Je suis venu pour mon compte, à cause de toutes les histoires qu'on faisait sur vos diableries. J'étais curieux de les voir, mais je vous jure qu'ils avaient l'esprit trop égaré et la vue trop trouble pour me reconnaître. Nous allions partir quand des bruits de voix écolérées et des tumultes sourds, comme ceux d'une querelle, se firent entendre. « Ouida, dit le carme, qui a-t-il encore? Je crois qu'ils reviennent et que nous n'en avons pas fini avec eux. Et vite, reprenons nos déguisements. « Laissez faire, dit Benoît, prêtant l'oreille, je vois ce que c'est. J'ai rencontré, en venant ici par les caves du château, quatre ou cinq gaillards dont un méconnu. C'est Léonard, votre ouvrier bourbonnais, père Bastien. Ces jeunes gens venaient aussi par curiosité sans doute, mais ils s'étaient égarés dans les caveaux et n'étaient pas bien rassurés. Je leur ai donné ma lanterne en leur disant de m'attendre. Ils auront été rencontrés par les sonneurs en déroute, et ils s'amusent à leur donner la chasse. « La chasse pourrait bien être pour eux, dit Huriel, s'ils ne sont pas en nombre. Allons-y voir. » Nous nous y disposions, quand les pas et le bruit se rapprochant, nous vîmes rentrer Carnat, Doré Fratin, et une bande de huit autres qui, ayant, en effet, échangé quelques bonnes tapes avec mes camarades, étaient revenus de leur poltronnerie et comprenaient qu'ils avaient affaire à de bons vivants. Ils se retournèrent contre nous, accablant les Huriel de reproches pour les avoir trahis et fait tomber dans une embûche. Le grand bûcheux s'en défendit, et le carme voulut mettre la paix en prenant tout sur son compte et en leur reprochant leur tort. Mais il se sentait en force, parce qu'à tout moment il en arrivait d'autres pour les soutenir, et quand ils se virent à peu près au complet, ils élevèrent le ton et commencèrent à passer des insultes aux menaces et des menaces aux coups. Sentant qu'il n'y avait pas moyen d'éviter la rencontre, d'autant plus qu'ils avaient bu beaucoup d'eau-de-vie pendant les épreuves et ne se connaissaient plus guère, nous nous mîmes en défense, serrés les uns contre les autres, et faisant face à l'ennemi de tous côtés, comme se tiennent les bœufs quand une bande de loups les attaque au pâturage. Le carme, y ayant perdu sa morale et son latin, y perdit aussi sa patience, car, s'emparant du bourdon d'une musette tombée dans la bagarre, il s'en servit aussi bien qu'homme peut faire pour défendre sa peau. Par malheur, Joseph était affaibli de la perte de son sang, et Huriel, qui avait toujours dans le cœur la mort de Malzac, craignait plus de faire du mal que d'en recevoir. Tout occupé de protéger son père, qui y allait comme un lion, il se mettait en grand danger. Benoît s'escrimait très bien pour un homme qui sort de maladie. Mais, en somme, nous n'étions que 6 contre 15 ou 16, et, comme le sang commençait à se montrer, la rage venait, et je vis qu'on ouvrait les couteaux. Je n'eus que le temps de me jeter devant le grand bûcheux qui, répugnant encore à tirer l'arme tranchante, était l'objet de la plus grosse rancune. Je reçus un coup dans le bras, que je ne sentis quasiment point, mais qui me gêna pourtant bien pour continuer, et je voyais la partie perdue, quand, par bonheur, mes quatre camarades, se décidant à venir au bruit, nous apportèrent un renfort suffisant, et mirent en fuite, pour la seconde fois, et pour la dernière, nos ennemis épuisés, pris par derrière, et ne sachant point si ce serait le tout. Je vis que la victoire nous restait, qu'aucun de mes amis n'avait grand mal, et m'apercevant tout d'un coup que j'en avais trop reçu pour un homme tout seul, je tombai comme un sac, et ne connus ni ne sentis plus aucune chose de ce monde. Fin de la 30e veillée. Trente-et-unième veillée des Maîtres Sonneurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Maîtres Sonneurs de George Sand. 31e veillée. Quand je me réveillai, je me vis couché dans un même lit avec Joseph, et il me fallut un peu de peine pour réclamer mes esprits. Enfin, je connus que j'étais en la propre chambre de Benoît, que le lit était bon, les draps bien blancs, et que j'avais au bras la ligature d'une saignée. Le soleil brillait sur les courtines jaunes, et, sauf une grande faiblesse, je ne sentais aucun mal. Je me tournai vers Joseph, qui avait bien des marques, mais aucune dont il dut rester dévisagé, et qui me dit en m'embrassant, « Eh bien, mon Tiennet, nous voilà comme autrefois, quand, au retour du catéchisme, nous nous reposions dans un fossé après nous être battus avec les gars de Verneuil. Comme dans ce temps-là, tu m'as défendu à ton dommage. Et, comme dans ce temps-là, je ne sais point t'en remercier comme tu le mérites. Mais en tout temps, tu as deviné peut-être que mon cœur n'est pas si chiche que ma langue. Je l'ai toujours pensé, mon camarade, lui répondis-je en l'embrassant aussi. Et si je t'ai encore une fois secouru, j'en suis content. Cependant, il n'en faut pas prendre trop pour toi. J'avais une autre idée, je m'arrêtai, ne voulant point céder à la faiblesse de mes esprits, qui m'aurait, pour un peu, laissé échapper le nom de Thérence. Mais une main blanche tira doucement la courtine, et je vis devant moi la propre image de Thérence qui se penchait vers moi, tandis que la Mariton, passant dans la ruelle, caressait et questionnait son fils. Thérence se pencha sur moi, comme je vous dis, et moi, tout saisi, croyant rêver, je me soulevai pour la remercier de sa visite et lui dire que je n'étais point en danger, quand, sot comme un malade et rougissant comme une fille, je reçus d'elle le plus beau baiser qui ait jamais fait revenir un mort. « Qu'est-ce que vous faites, Thérence ? » m'écriai-je en lui empoignant les mains que j'aurais quasi mangées. « Voulez-vous donc me rendre fou ?»« Je veux vous remercier et aimer toute ma vie, » répondit-elle, « car vous m'avez tenu parole. Vous m'avez renvoyé mon père et mon frère sains et saufs dès ce matin, et je sais tout ce que vous avez fait, tout ce qui vous est arrivé pour l'amour d'eux et de moi. Aussi me voilà pour ne plus vous quitter tant que vous serez malade. À la bonne heure, Thérence, lui dis-je en soupirant, c'est plus que je ne mérite. Fasse donc le bon Dieu que je ne guérisse point, car je ne sais ce que je deviendrais après. Après ? Dit le grand bûcheux, qui venait d'entrer avec Huriel et Brulette. Voyons, ma fille, que ferons-nous de lui après ? Après ? Dit Thérence, rougissant en plein pour la première fois. Allons, allons, Thérence la sincère, reprit le grand bûcheux. Parlez comme il convient à la fille qui n'a jamais menti. Eh bien, mon père, dit Thérence, après, je ne le quitterai pas davantage. Ôtez-vous de là, m'écriai-je. Fermez les rideaux, je me veux habiller, lever, et puis sauter, chanter et danser. Je ne suis point malade, j'ai le paradis dans l'âme. Mais, disant cela, je retombai en faiblesse et ne vis plus que dans une manière de rêve Thérence qui me soutenait dans ses bras et me donnait des soins. Le soir, je me sentis mieux. Joseph était déjà sur pied et j'aurais pu y être aussi, mais on ne le souffrit point et force me fut de passer la veillée au lit tandis que mes amis causaient dans la chambre et que ma Thérence, assise à mon chevet, m'écoutait doucement et me laissait lui répandre en paroles tout le baume dont j'avais le cœur rempli. Le Carme causait avec Benoît, tous deux arrosant la conversation de quelques pichets de vin blanc qu'ils avalaient en guise de tisane rafraîchissante. Huriel causait avec Brulette en un coin, Joseph avec sa mère et le grand bûcheux. Or Huriel disait à Brulette, « Je t'avais bien dit, le premier jour que je te vis, en te montrant ton gage à mon anneau d'oreille, il y restera toujours, à moins que l'oreille n'y soit plus. Eh bien, l'oreille, quoique fendue dans la bataille, y est encore, et l'anneau, quoique brisé, le voilà, avec le gage un peu bosselé. L'oreille guérira, l'anneau sera ressoudé, et tout reprendra sa place, par la grâce de Dieu. » La Mariton disait au grand bûcheux, « Eh bien, qu'est-ce qui va résulter de cette bataille à présent? Ils sont capables de m'assassiner, mon pauvre enfant, s'il essaie de cornemuser dans le pays ?»« Non, répondait le grand bûcheux, tout s'est passé pour le mieux, car ils ont reçu une bonne leçon, et il s'y est trouvé assez de témoins étrangers à la confrérie, pour qu'ils n'osent plus rien tenter contre Joseph et contre nous. Ils sont capables de faire le mal quand cela se passe entre eux, et qu'ils ont, par force ou par amitié, arraché à un aspirant le serment de se taire. Joseph n'a rien juré. Il se taira parce qu'il est généreux. Tiennet aussi, de même que mes jeunes bûcheux, par mon conseil et mon commandement. Mais vos sonneurs savent bien que s'ils touchaient, à présent, à un cheveu de nos têtes, les langues seraient déliées et l'affaire irait en justice. » Et le Carme disait à Benoît, « Je ne saurais point rire avec vous de l'aventure, depuis que j'y ai eu un accès de colère dont il me faudra faire confession et pénitence. Je leur pardonne bien les coups qu'ils ont essayé de me porter, mais non ceux qu'ils m'ont forcé de leur appliquer. Oh, le père prieur de mon couvent a bien raison de me tancer quelquefois, et de me dire qu'il faut combattre en moi non seulement le vieil homme, mais encore le vieux paysan, c'est-à-dire celui qui aime le vin et la bataille. Le vin, continua le carme en soupirant et en remplissant son verre jusqu'au bord, j'en suis corrigé, Dieu merci. Mais je me suis aperçu cette nuit que j'avais encore le sang querelleur et qu'une tape me rendait furieux. N'étiez-vous point là en état et en droit de légitime défense ? Dit Benoît. Allons donc, vous avez parlé aussi bien que vous deviez et n'avez levé le bras que quand vous y avez été forcé. Sans doute, répondit le carme. Mais mon malin diable de père prieur me fera des questions. Il me tirera les vers du nez et je serai forcé de lui confesser qu'au lieu d'y aller avec réserve et à regret, je me suis laissé emporter au plaisir de taper comme un sourd, oubliant que j'avais le froc au dos, et m'imaginant être au temps où, gardant les vaches avec vous, dans les prairies du Bourbonnais, j'allais chercher en querelle aux autres patours pour la seule vanité mondaine de montrer que j'étais le plus fort et le plus têtu. Joseph ne disait rien, et sans doute il souffrait de voir deux couples heureux qui n'avaient plus le droit de bouder, ayant reçu d'Huriel et de moi si bonne assistance. Le grand bûcheux, qui avait pour lui, en plus, un faible de musicien, l'entretenait dans ses idées de gloire. Il faisait donc de grands efforts pour voir sans jalousie le contentement des autres, et nous étions forcés de reconnaître qu'il y avait, dans ce garçon si fier et si froid, une force d'esprit peu commune pour se vaincre. Il resta caché, ainsi que moi, dans la maison de sa mère, jusqu'à ce que les marques de la bataille fussent effacées. Car le secret de l'affaire fut gardé par mes camarades, avec menaces aux sonneurs toutefois, de la part de Léonard, qui se conduisit très sagement et très hardiment avec eux, de tout révéler au juge du canton s'il ne se rangeait à la paix une fois pour toutes. Quand ils furent tous debout, car il y en avait eu plus d'un de bien endommagé, et notamment le père Carnat, à qui il paraît que j'avais démanché le poignet, les paroles furent échangées et les accords conclus. Il fut décidé que Joseph aurait plusieurs paroisses, et il se les fit adjuger, encore qu'il eût l'intention de n'en point jouir. Je fus un peu plus malade que je ne croyais, non tant à cause de ma blessure, qui n'était pas bien grande, ni des coups dont on m'avait assommé le corps, que de la saignée trop forte que le carme m'avait faite à bonne intention. Huriel et Brulette eurent l'amitié bien charmante de vouloir retarder leur mariage, à seule fin d'attendre le mien. Et un mois après, les deux noces se firent ensemble, mêmement les trois, car Benoît voulut rendre le sien public et en célébrer la fête avec le nôtre. Ce brave homme, heureux d'avoir un héritier si bien élevé par Brulette, essaya de lui faire accepter un don de conséquence. Mais elle le refusa obstinément, et se jetant au bras de la Mariton. « Ne vous souvient-il donc plus, s'écria-t-elle, que cette femme-là m'a servi de mère pendant une douzaine d'années, et croyez-vous que je puisse accepter de l'argent quand je ne suis pas encore quitte envers elle ?»« Oui, dit la Mariton, mais ton éducation a été tout honneur et tout plaisir pour moi, tandis que celle de mon Charlot t'a causé des affronts et des peines. »« Ma chère amie, répondit Brulette, ceci est la chose qui remet un peu d'égalité dans nos comptes. J'aurais souhaité pouvoir faire le bonheur de votre José en retour de vos bontés pour moi, mais cela n'a pas dépendu de mon pauvre cœur, et dès lors, pour vous compenser de la peine que je lui causais, je devais bien m'exposer à souffrir pour l'amour de votre autre enfant. » « Voilà une fille ! S'écria Benoît, essuyant ses gros yeux ronds qui n'étaient point sujets aux larmes. « Oui, oui, voilà une fille !» Et il n'en pouvait dire davantage. Pour se venger des refus de Brulette, il voulut faire les frais de sa noce et celle de la mienne par-dessus le marché. Et comme il n'y épargna rien et y invita au moins 200 personnes, il y fut pour une grosse somme, de laquelle il ne marqua jamais aucun regret. Le carme nous avait fait trop bonne promesse pour y manquer, d'autant plus que son père prieur l'ayant mis à l'eau pendant un mois pour sa pénitence, le jour de nos noces fut celui où l'interdit était levé de son gosier. Il n'en abusa point, et se comporta d'une manière si aimable que nous fîmes tous avec lui la même amitié qu'il y avait entre lui, Huriel et Benoît. Joseph alla bien courageusement jusqu'au jour des noces. Le matin, il fut pâle et comme accablé de réflexions. Mais, en sortant de l'église, il prit la musette des mains de mon beau-père et joua une marche de noces qu'il avait composée, la nuit même, à notre intention. C'était une si belle chose de musique, et il y fut donné tant d'acclamations que son chagrin se dissipa, qu'il sonna triomphalement ses plus beaux airs de danse et se perdit dans son délice tout le temps que dura la fête. Il nous suivit ensuite au chassin, et là, le grand bûcheux, ayant réglé toutes nos affaires, Mes enfants, vous voilà heureux et riches pour des gens de campagne. Je vous laisse l'affaire de cette futaie, qui est une belle affaire, et tout ce que je possède d'ailleurs est à vous. Vous allez passer ici quasiment le reste de l'année, et vous déciderez, pendant ce temps-là, de vos plans de campagne pour l'avenir. Vous êtes de pays différents, et vous avez des goûts et des habitudes divers. Essayez-vous à la vie que chacun de vous doit procurer à sa femme, pour la rendre heureuse de tout point et ne lui pas faire regretter des unions si bien commencées. Je reviendrai dans un an. Sachez que j'ai deux beaux petits-enfants à caresser. Vous me direz alors ce que vous aurez réglé. Prenez votre temps, telle chose paraît bonne aujourd'hui qui paraît pire ou meilleure le lendemain. « Et où donc allez-vous, mon père ?» dit Thérence en l'entourant de ses bras avec frayeur. « Je vais musiquer un peu par les chemins avec Joseph, répondit-il, car il a besoin de cela, et moi, il y a 30 ans que j'en jeûne. » Ni larmes ni prières ne le purent retenir, et nous leur fîmes la conduite jusqu'à moitié chemin de Sainte-Sévère. Là, tandis que nous embrassions le grand bûcheux avec beaucoup de chagrin, Joseph nous dit « Ne vous désolez point. C'est à moi, je le sais, qu'il sacrifie la vue de votre bonheur, car il a pour moi aussi le cœur d'un père, et il sait que je suis le plus à plaindre de ses enfants. Mais peut-être n'aurai-je pas longtemps besoin de lui, et j'ai dans l'idée que vous le reverrez plus tôt qu'il ne le croit lui-même. » Là-dessus, pliant les genoux devant ma femme et devant celle d'Huriel, « Mes chères sœurs, dit-il, je vous ai offensées l'une et l'autre, et j'en ai été assez puni par mes pensées. Ne me voulez-vous point pardonner, afin que je me pardonne et m'en aille plus tranquille ?» Toutes deux l'embrassèrent de grande affection, et il vint ensuite à nous, nous disant, avec une surprenante abondance de cœur, les meilleures et les plus douces paroles qu'il eût dites de sa vie, nous priant aussi de lui pardonner ses fautes, et de garder mémoire de lui. Nous montâmes sur une hauteur pour les voir le plus longtemps possible. Le grand bûcheux sonnait généreusement dans sa musette, et, de temps en temps, se retournait pour agiter son bonnet et nous envoyer des baisers avec la main. Joseph ne se retourna point. Il marchait en silence et la tête baissée, comme brisé ou recueilli. Je ne pus m'empêcher de dire à Huriel que je lui avais trouvé sur la figure, au moment du départ, ce je ne sais quoi que j'y avais remarqué souvent dans sa première jeunesse, et qui est, chez nous, réputé la physionomie d'un homme frappé d'un mauvais destin. Les larmes de la famille se séchèrent peu à peu dans le bonheur et l'espérance. Ma belle chère femme y fit plus d'efforts que les autres, car, n'ayant jamais quitté son père, elle semblait perdre avec lui la moitié de son âme, et je vis bien que, malgré son courage, son amitié pour moi et le bonheur que lui donna bientôt l'espoir d'être mère, il lui manquait toujours quelque chose, après quoi elle soupirait en secret. Aussi, je songeais sans cesse à arranger ma vie de manière à nous réunir avec le grand bûcheux, dussé-je vendre mon bien, quitter ma famille et suivre ma femme où il lui plairait d'aller. Il en était de même de Brulette, qui se sentait résolue à ne consulter que les goûts de son mari, surtout quand son grand-père, après une courte maladie, se fut éteint bien tranquillement, comme il avait vécu, au milieu de nos soins et des caresses de sa chère enfant. « Tiennet, me disait-elle souvent, il faudra, je le vois, que le Berry soit vaincu en nous par le Bourbonnais. Huriel aime trop cette vie de force et de changement d'air pour que nos plaines dormantes lui plaisent. Il me donne trop de bonheur pour que je lui souffre quelques regrets cachés. Je n'ai plus de famille chez nous. Tous mes amis, hormis toi, m'y ont fait des peines. Je ne vis plus que dans Huriel. Où il sera bien, c'est là que je me sentirai le mieux. » L'hiver nous trouva encore au bois du Chassin. Nous avions bien gâté ce bel endroit dont la futaie de chêne était le plus grand ornement. La neige couvrait les cadavres de ces beaux arbres dépouillés par nous et jetés tous, la tête en avant, dans la rivière, qui les retenait, encore plus froids et plus morts, dans la glace. Nous goûtions, Huriel et moi, auprès d'un feu de copeaux que nos femmes venaient d'allumer pour y réchauffer nos soupes, et nous les regardions avec bonheur, car toutes deux étaient en train de tenir la promesse qu'elles avaient faite au grand bûcheux de lui donner de la survivance. Tout d'un coup, elles s'écrièrent, et Thérence, oubliant qu'elle n'était plus aussi légère qu'au printemps, s'élança quasi au travers du feu pour embrasser un homme que nous cachait la fumée épaisse des feuilles humides. C'était son brave homme de père, qui bientôt n'eut plus assez de bras et de bouche pour répondre à toutes nos caresses. Après la première joie, nous lui demandâmes nouvelles de Joseph, et vîmes sa figure s'obscurcir et ses yeux se remplir de larmes. « Il vous l'avait annoncé, répondit-il, que vous me reverriez plus tôt que je ne pensais. Il sentait comme un avertissement de son sort, et Dieu, qui amollissait l'écorce de son cœur en ce moment-là, lui conseillait sans doute de réfléchir sur lui-même. Nous n'osions plus faire de questions. Le grand bûcheux s'assit, ouvrit sa besace et en tira les morceaux d'une musette brisée. « Voilà tout ce que je vous rapporte de ce malheureux enfant, » dit-il. « Il n'a pu échapper à son étoile. Je pensais avoir adouci son orgueil, mais, pour tout ce qui tenait de la musique, il devenait chaque jour plus hautain et plus farouche. C'est ma faute, peut-être. Je voulais le consoler des peines d'amour en lui montrant son bonheur dans son talent. Il a goûté au moins les douceurs de la louange, mais à mesure qu'il s'en nourrissait, la soif lui en venait plus âcre. Nous étions loin. Nous avions poussé jusque dans les montagnes du Morvan, où il y a beaucoup de sonneurs encore plus jaloux que ceux d'ici, mais non pas tant pour leurs intérêts que pour leur amour-propre. Joseph a manqué de prudence. Il les a offensés en paroles, dans un repas qu'il lui avait offert très honnêtement et à bonnes intentions d'abord. Par malheur, je ne l'y avais point suivi, me trouvant un peu malade, et n'ayant pas sujet de me méfier de la bonne intelligence qu'il y avait entre eux au départ. Il passa la nuit dehors, comme il faisait souvent, et comme j'avais remarqué qu'il était parfois un peu jaloux de l'applaudissement qu'on donnait à mes vieilles chansons, je ne le voulais point gêner. Au matin, je sortis, encore un peu tremblant de fièvre, et j'appris, dans le bourg, qu'on avait ramassé une musette brisée au bord d'un fossé. Je courus pour la voir et la reconnus bien vite. Je me rendis à l'endroit où elle avait été trouvée, et, cassant la glace du fossé, j'y découvris son malheureux corps tout gelé. Il ne portait aucune marque de violence, et les autres sonneurs ont juré qu'ils l'avaient quitté, sans dispute et sans ivresse, à une lieue de là. J'ai en vain recherché les auteurs de sa mort. C'est un endroit sauvage où les gens de justice craignent le paysan, et où le paysan ne craint que le diable. Il m'a fallu partir en me contentant de leurs tristes et sots propos. Ils croient fermement en ce pays ce que l'on croit un peu dans celui-ci, à savoir qu'on ne peut devenir musicien sans vendre son âme à l'enfer, et qu'un jour ou l'autre Satan arrache la musette des mains du sonneur et la lui brise sur le dos, ce qui l'égare, le rend fou et le pousse à se détruire. C'est comme cela qu'ils expliquent les vengeances que les sonneurs tirent les uns des autres, et ceux-ci n'y contredisent guère, ce qui leur est moyen de se faire redouter et d'échapper aux conséquences. Aussi les tient-on en si mauvaise estime et en si grande crainte que je n'ai pu faire entendre mes plaintes, et que, pour un peu, si je fusse resté dans l'endroit, l'on m'eût accusé d'avoir moi-même appelé le diable pour me débarrasser de mon compagnon. « Hélas !» dit Brulette en pleurant. « Mon pauvre José, mon pauvre camarade, et qu'est-ce que nous allons dire à sa mère, mon bon Dieu ?»« Nous lui dirons, » répliqua tristement le grand bûcheux, « de ne point laisser Charlot s'énamourer de la musique. C'est une trop rude maîtresse pour des gens comme nous autres. Nous n'avons point la tête assez forte pour ne point prendre le vertige sur les hauteurs où elle nous mène. » « Oh, mon père !» s'écria Thérence. « Si vous pouviez l'abandonner, Dieu sait dans quel malheur elle vous jettera aussi. »« Sois tranquille, ma chérie, » répondit le grand bûcheux. « M'en voilà revenu. Je veux vivre en famille, élever ces petits-enfants-là, que je vois déjà en rêve danser sur mes genoux. Où est-ce que nous nous fixons, mes chers enfants ?»« Où vous voudrez ?» s'écria Thérence. « Et où voudront nos maris ?» s'écria Brulette. « Où voudra ma femme ?» m'écriai-je aussi. « Où vous voudrez tous ?» dit Huriel à son tour. « Eh bien, » dit le grand bûcheux, « comme je sais vos humeurs et vos moyens, et que je vous rapporte encore un peu d'argent, j'ai calculé, en route, qu'il était aisé de contenter tout le monde. Quand on veut que la pêche mûrisse, il ne faut point arracher le noyau. Le noyau, c'est la terre que possède Tiennet. Nous allons l'arrondir et y bâtir une bonne maison pour nous tous. Je serai content de faire pousser le blé, de ne plus abattre les beaux ombrages du bon Dieu, et de composer mes petites chansons à l'ancienne mode, le soir, sur ma porte, au milieu des miens, sans aller boire le vin des autres et sans faire de jaloux. Huriel aime à courir le pays. Sa femme est, à présent, de la même humeur. Ils prendront des entreprises comme celle de cette futaie, où je vois que vous avez bien travaillé, et iront passer la belle saison dans les bois. Si leur famille trop jeune les embarrasse quelquefois, Thérence est de force et de cœur à gouverner double nichée, et on se retrouvera à la fin de chaque automne avec double plaisir, jusqu'au jour où mon fils, après m'avoir fermé les yeux depuis longtemps, sentira le besoin du repos de toute l'année, comme je le sens à cette heure. » Tout ce que disait là mon beau-père arriva comme il le conseillait et l'augurait. Le bon Dieu bénit notre obéissance, et, comme la vie est un ragoût mélangé de tristesse et de contentement, la pauvre Mariton vint souvent pleurer chez nous, et le bon carme y vint souvent rire. Fin de la 31e veillée. Fin des Maîtres sonneurs de George Sand. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en 2009.
Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.